Bonjour, en ce 14 août, la veille de l'Assomption, c'est la fête surtout de Saint-Maximilien Kolbe qui a été canonisé récemment au début des années 80 par le pape Jean-Paul II. Il avait été béatifié par le pape Paul VI. Il est mort durant la guerre au fameux camp de concentration d'Auschwitz, dans des conditions terribles. C'est aussi la fête de quelques autres saints peu connus, en particulier Arnoux Soissons, un évêque, Anastasie, une abbesse, qui est morte en 1860, et un saint italien, un évêque, Stefano Pendinelli. Mais Maximilien Kolbe, évidemment, remporte la palme aujourd'hui, bien qu'il soit tout saint, tout récent. Et je tiens à vous lire un bref passage de son séjour au camp de concentration que j'extrais d'un livre qui s'appelait Le secret de Maximilien Kolbe de Maria Winowska. C'est un livre écrit il y a déjà bien longtemps qui appuie énormément, évidemment, sur l'immense dévotion de ce saint à la Vierge Immaculée. Il faut dire qu'il est né pas tellement longtemps, au fond, après la promulgation de ce dogme. Et il est entré chez les franciscains conventuels. Ce sont les franciscains vêtus de noir, que l'on retrouve d'ailleurs à la basilique de Saint-François d'Assise, à Assise. Ils sont à Montréal, en particulier dans une paroisse polonaise, car lui-même était polonais. Et on les retrouve aussi à la paroisse allemande Saint-Boniface, sur l'avenue des Pins, pas tellement loin de la rue Saint-Laurent, de la rue Saint-Denis. Une église ignorée, on passe devant, on ne la voit guère, Saint-Boniface, une paroisse allemande. Donc ces franciscains que l'on connaît peu chez nous, puisque nous connaissons surtout les franciscains bruns, sont une réforme des franciscains et sont aussi des hommes que l'on retrouve extrêmement nombreux dans d'autres pays. Et lui, il est entré dans un monastère qui était assez prospère, mais peu fidèle. Il a voulu vraiment établir une réforme. Ça l'a conduit à la sainteté. Et on raconte dans ce livre de Maria Winowska une scène terrible qui lui est arrivée au camp d'Auschwitz. Un beau jour, il y a inspection, écrit Maria Winowska. Et à la vue d'un habit religieux, le char Führer, SS, est saisi de rage. Les yeux injectés de sang, de l'écume sur les lèvres, il empoigne le rosaire que le père Maximilien porte à sa ceinture, le tire violemment. « Imbécile, crétin, sale curé, dis-moi tout de suite si tu crois cela. » Il lui montre les crucifix du rosaire. « Oui, je crois, » dit le père avec beaucoup de force et de calme. Une gifle magistrale, puis une autre, le père se plie en deux. Il sent dans la bouche le goût salé du sang. Eh bien, crois-tu encore, ricane le sbire. Le sbire, c'est-à-dire le soldat, le policier. Eh bien, crois-tu encore? Oh oui, et comment? Autre coup, une grêle de coups, accompagnée de jurons. La figure du pauvre père, Maximilien Kolbe, devient blanche puis violette. Après chaque coup, il se redresse plus difficilement, mais il continue à faire face. « Et maintenant, me diras-tu que tu crois encore ?»« Oh oui, je crois. » La fureur du sbire n'a plus de limite. Il frappe de toutes ses forces les poings fermés. Le père s'écroule et alors il le roue de coups de botte. Sa figure hagarde n'a plus rien d'humain. Finalement, voyant que sa victime ne bouge plus, il s'enfuit en claquant la porte. À peine a-t-il repris connaissance que le père Maximilien fait tout ce qu'il peut pour calmer ses compagnons, car il faut dire qu'il a été traîné avec d'autres prêtres franciscains. Son visage est horriblement tuméfié, enflé. Il parle avec peine. Mes amis, vous devriez vous réjouir avec moi. C'est pour les âmes. C'est pour l'Immaculé. Il y a une telle insistance chez lui que ça a risqué de déplaire à beaucoup de chrétiens, de catholiques, cette insistance sur l'Immaculé. Mais nous verrons tout à l'heure. Et le texte se termine ainsi par trois petites lignes. Les médecins prisonniers se prévalurent de cet incident pour transférer le père Maximilien à l'infirmerie, ou du moins il fut soustrait à de nouvelles rencontres avec le chef énergumène. Ce récit pénible qui précède l'occasion par laquelle il mourra, et dont je vous parlerai plus tard, est vraiment, à mon avis, très très émouvant. Et dans un texte, une lettre, écrite par sa mère, le 12 octobre 1941, elle relate un événement mystérieux qui a marqué l'enfance de son jeune garçon qui s'appelait à l'époque Raymond. Ça me touche étant donné que c'est mon prénom. Me suis-je identifié au microphone, n'est-ce pas, Raymond Beaugrand-Champagne? Alors, on dit qu'elle seule était au courant et elle seule, sa mère, conservait tout cela en son cœur. Aussi, cette femme énergique, animée d'une foi solide, s'était-elle toujours montrée à la hauteur de l'idéal de son fils, et voici donc la lettre qui a été versée au procès de béatification à Varsovie. Elle habitait évidemment Varsovie, sa mère. Il y a même une photo, elle a le regard très doux, un curieux chapeau. Elle a l'air vraiment très bonne, comme une vraie mère. Hein? Elle écrit donc « Je savais déjà au début, à la suite d'un événement extraordinaire survenu au père Maximilien dans les années de son enfance, qu'il mourrait martyr. Seulement, je ne me rappelle pas si la chose est arrivée après ou avant sa première confession. Une fois, quelque chose m'avait déplu en lui, et je lui dis, écoutez bien ça, c'est très important, elle lui dit, « Mon petit Raymond, que va-t-on faire de toi ?» Et cette simple question, c'est curieux, ça a été le changement de toute sa vie dans son enfance. Elle poursuit sa mère en écrivant, « Depuis, nous n'y pensions plus, mais je remarquais que l'enfant n'était plus comme avant. » Il y avait dans un coin un petit autel près duquel il se rendait sans se faire voir et y priait en pleurant. D'une manière générale, il manifestait un comportement qui était au-dessus de celui d'un enfant, étant toujours recueilli, sérieux, et lorsqu'il priait, il était en larmes. J'étais préoccupé de savoir si par hasard il n'était pas malade, et alors je lui demandais « Que t'arrive-t-il ?» Et je me mis à l'insister. « Tu dois tout dire à ta maman. » Et tremblant d'émotion, et les larmes aux yeux, il me dit, « Maman, lorsque tu m'as grondé, j'ai beaucoup prié la Sainte Vierge de me dire ce que j'allais devenir, puisqu'elle lui avait demandé, « Que va-t-on faire de toi hein? ?» Et ensuite, poursuit le jeune Raymond, « Me trouvant à l'église, je la priai de nouveau, alors la Vierge m'est apparue, tenant dans ses mains deux couronnes, une blanche et une rouge. Avec amour, elle m'a regardé et m'a demandé si je les voulais. La blanche signifiait que je persévérerais dans la pureté, et la rouge que je serais martyr. Or, maman, je répondis que je les acceptais. Alors, la Sainte Vierge m'a regardé avec douceur et a disparu. Et Madame Colbé continue en disant, en écrivant, quoi, dans cette lettre de 1941, « Le changement extraordinaire survenu dans le garçon me certifiait la vérité de la chose. On ne l'a pas toujours compris, et à chaque occasion, il montrait, par le rayonnement de son visage, le désir qu'il avait de mourir martyr, et c'est ainsi que je me suis vu préparer, comme la Vierge Marie, après la prophétie de Siméon. » C'est très beau cette foi profonde qu'elle a, hein, cette femme, qui cherche au fond une imitation de la Vierge qui, après la prophétie de Siméon, a compris que Jésus allait être martyr, et ça a été le cas pour elle avec son fils. C'est un très beau document et je voulais donc préparer cette petite biographie de Maximilien Kolbe de cette façon. Sa biographie est au fond assez simple. Il naît dans un mois de janvier dans un village près de Łódź sous le nom, comme je vous ai dit, de Raymond Kolbe. Il est le second de quatre garçons. Quelques années plus tôt, sa mère, Maria Dabrowska, allait entrer au couvent lorsqu'elle a rencontré Jules Kolbe, un ouvrier tisserand qui l'a demandé en mariage. En 1902, 8 ans plus tard, Raymond fait sa première communion le 29 juin dans l'église paroissiale. L'année suivante, sa mère l'envoie chercher un remède et Raymond se précipite et débite d'un trait au pharmacien la formule latine du médicament. Alors le pharmacien, surpris, questionne l'enfant. « C'est bien pour le latin, mais vas-tu à l'école? » Et cet enfant de 9 ans répond « Non, c'est mon frère aîné François qui va à l'école. Moi, je reste à la maison pour aider mes parents qui n'ont pas assez d'argent pour nous faire étudier tous les deux. » Et le pharmacien réfléchit un peu. Puis, il invite le petit Raymond à venir prendre des leçons chez lui. L'année suivante, à la maison derrière l'armoire, se trouve, comme c'est la coutume en Pologne, une sorte de petite chapelle arrangée avec amour avec l'autel consacré à Notre-Dame de Szczeszkowa. Et naïvement, il y prie. Il va souvent derrière l'armoire, passe de longs moments à prier. Et c'est là que il reçoit finalement à l'église, devant la statue de la Vierge, cette apparition que sa mère nous a relatée tout à l'heure. À 13 ans, en 1907, il reçoit le sacrement de confirmation. Lorsque les franciscains de Lvov, LWOW, viennent prêcher une mission dans la ville, ben ses parents, les Kolbe, décident de leur confier l'aîné, François, mais Raymond se tait. Mais redouble de ferveur et la mère devine son secret. Et au dernier moment, on lui promet qu'il pourra accompagner François, son frère aîné, au petit séminaire des frères mineurs conventuels, c'est-à-dire les franciscains conventuels, ces franciscains vêtus de noir dont je vous ai parlé tout à l'heure. À 14 ans, il se demande s'il ne devrait pas plutôt aller servir la Sainte Vierge dans le monde. Il hésite. Il a l'idée d'aller voir le supérieur et de lui parler, puis de s'en aller. 14 ans, il veut abandonner. Mais il lui arrive un événement absolument fantastique qui vaut la peine d'être raconté. C'est sa mère qui vient au parloir. Elle vient lui annoncer une grande nouvelle. Puisque ses enfants sont placés, puisque ses enfants sont élevés, elle et son mari ont décidé d'un commun accord de consacrer totalement à Dieu le restant de leurs jours. Le père, lui, chez les franciscains de Cracovie, et la mère chez les bénédictines de Lvov. Imaginez, c'est comme un adieu pour lui. Ah, pour Raymond, c'est un coup de foudre. Il dit, mes yeux se sont dessillés à ce moment-là. J'ai vu et j'ai compris. Alors il se précipite chez le supérieur pour le prier de lui donner plutôt l'habit de Saint-François plutôt que de lui permettre de s'en aller. À 16 ans, donc, il commence son noviciat. Il prend le vêtement noir, n'est-ce pas, ceint d'une corde blanche. Et il reçoit le nom de frère Maximilien. C'est à 16 ans qu'il quitte son prénom de Raymond. En 1912, ses supérieurs sont conscients de ses dons, alors il l'envoie à Rome, à l'université grégorienne, chez les jésuites. C'est ce qu'il y avait de mieux, et je pense, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux à Rome, pour faire des études de théologie, de philosophie aussi. Alors il prend un doctorat en philosophie. Son père, en 1914, qui avait été officier dans l'armée polonaise et qui était redevenu officier, même s'il était entré chez les franciscains, fait prisonnier avec son détachement par les Russes et il est fusillé. Notre saint, Maximilien Kolbe, a 20 ans. Un mois plus tard, il fait sa profession solennelle dans la chapelle de ce qu'on appelle le Seraphicum de Rome, c'est-à-dire ce grand monastère franciscain où l'ensemble des franciscains du monde entier envoient leurs meilleurs sujets pour faire des études à Rome, pour loger en tous les cas. Le 22 octobre, il obtient en 1915 son doctorat en philosophie, commence ses études de théologie, et puis il va plutôt faire ses études de théologie à la faculté pontificale Saint-Bonaventure des franciscains de Rome, plutôt que chez les jésuites. Le jour du 75e anniversaire de l'apparition de l'Immaculée, on est en 1917, le 20 janvier, l'apparition de l'Immaculée, la Vierge Immaculée, à un juif, Alphonse de Ratisbonne. Alors, pendant l'heure de méditation, il a l'inspiration de fonder une association dédiée à la Sainte Vierge. Alors, il mobilise 6 autres fous, comme il dit, dans le but de fonder cette milice de l'Immaculée. Et alors, cette milice sera bientôt reconnue par l'Église, et il prend un moyen, lui, qui a 2 doctorats en philosophie puis en théologie, et ça devient vraiment étonnant, il utilise des médailles miraculeuses qu'il distribue à tout vent. Cette étrange méthode semble lui réussir car sa foi est mise non pas dans ses petits objets, mais dans son amour et sa tendresse pour Marie et sa foi profonde en Dieu, comme on verra tout à l'heure. C'est à Rome, à l'église San Andrea delle Valle, qu'il est ordonné prêtre, mais il célèbre sa messe à Sant'Andrea delle Frate, FRA 2TE. J'y suis allé et j'ai prié à l'autel où la Sainte Vierge est apparue à Alphonse de Ratisbonne en 1842. Je vous raconte en bref ce qui est survenu en 1842. Ce jeune banquier juif avait pris par erreur un train pour Rome. Se voyant rendu à Rome, il a décidé d'aller voir quelqu'un qui venait d'Alsace comme lui, en France, pour me parler un peu, se réfugier un peu, car il s'ennuyait à Rome, dans cette ville très catholique. Et alors, ce jeune juif, fort intelligent, brillant, était fiancé à une juive, et il est arrivé donc chez cet ami qui était un protestant. Mais le protestant s'était converti au catholicisme à Rome, et sa petite fille a donné une médaille miraculeuse, c'était tout récent, à notre ami Alphonse de Ratisbonne. Et Alphonse de Ratisbonne, à un moment donné, s'est trouvé à visiter une église parce qu'il s'ennuyait sur le trottoir à attendre son ami ex-protestant. Et il est entré et devant la statue de la Sainte Vierge, la Vierge lui est apparue, c'est pas la statue qui s'est animée, mais la Vierge lui est apparue, et en un clin d'œil, dit-on, il a tout compris du catholicisme, il a subi des examens en l'espace de quelques jours au Vatican auprès de cardinaux, etc. Il fut baptisé sur le champ, il a fondé une congrégation religieuse, les Pères de Sion, les Sœurs de Sion aussi, se sont répandus dans le monde entier. En 1919, à 25 ans, le pape Benoît XV reconnaît la fondation de Maximilien Kolbe, la milice de l'Immaculée. En juillet, le père Kolbe obtient son doctorat en théologie, il rentre en Pologne, il enseigne l'histoire de l'Église au séminaire des franciscains de Cracovie, d'où vient Jean-Paul II. L'archevêque de cette ville qui précédait Monseigneur Wojtyła, Karol Wojtyła, c'est le vrai nom du pape Jean-Paul II, n'est-ce pas, qui est archevêque de Cracovie, donc Monseigneur Adam Sapieha, autorise l'impression en polonais des statues de la milice de l'Immaculée. Je vous fais grâce de toute l'histoire qui entoure cette étonnante milice, mais qu'on sache que c'est devenu une œuvre fantastique, c'est répandu même à Nagasaki, comme on verra tout à l'heure au Japon, où la bombe atomique n'a pas détruit ce que Maximilien Kolbe avait construit, et c'est absolument étonnant, et ça touche presque au miracle. Le père franciscain Maximilien Kolbe décide de publier, n'est-ce pas, un petit journal, un bulletin qui s'appelle « Le Chevalier de l'Immaculée ». Ses confrères se moquent de lui, prétendent qu'il n'y a rien là-dedans et que ça vaut pas la peine et qu'il se donne bien du trouble pour rien. Et bien de la peine pour rien. Et alors, le premier tirage, c'est 5000 exemplaires. Mais en peu d'années, ça atteint 1 million d'abonnés. C'est absolument phénoménal. Hein? Et c'est Sœur Faustine, la fameuse Sœur Faustine, qui lui procure une machine à imprimer actionnée à la main. Je vous signale en passant que M. Rozvorovski, qui fait rassemblement à son image, est en train de terminer un film sur Sœur Faustine. Chaque jour, il réussit à faire plus ou moins 1 minute ou 30 secondes de montage, bien qu'il travaille très fort. C'est très très long faire un film. Hein? Nous verrons ça donc sur le câble bientôt, à travers le Québec. Vous savez que ces émissions passent en Russie aussi. Hein? C'est un rayonnement, c'est traduit en russe, en polonais. Il est polonais lui-même, n'est-ce pas, hein? Monsieur Rozvorovski. Et alors, en 1924, il a 30 ans, on imprime 12 000 exemplaires d'un premier almanach qu'il publie. Il rêve de publier un quotidien catholique comme La Croix en France ou L'Avenir et en Italie, où les protestants, l'Église de la science chrétienne, ont le Christian Science Monitor, qui est très réputé aux États-Unis, des quotidiens. Un jour, il rencontre, en 1927, à 33 ans, quelques étudiants japonais, puis il est touché par leur gentillesse. Il rêve d'aller les évangéliser. Il rêve aussi, quelque temps plus tard, de fonder un poste émetteur de radio. En 1927, hein, il pense déjà à la radio. C'est donc un homme étonnant qui rêve aux moyens de communication et qui croit que si les moyens de communication nous semblent souvent transporter des idées qui sont contraires à la foi chrétienne, il n'y a pas de raison pour que les chrétiens n'y entrent pas et en fassent autant. En 1930, et à 36 ans, il demande la permission de se rendre à Nagasaki. Il part. Il obtient la permission. Il laisse deux frères à Shanghai dans l'espérance de fonder là une revue mariale en chinois. Il rêve même d'en fonder en Inde. Il a vraiment des idées incroyables. Et il continue donc sur Nagasaki au Japon. Je vous ai parlé de Nagasaki l'autre jour, en parlant du docteur Paul Naga, et qui est mort comme un saint là-bas, hein, qui sera probablement, dit-on, canonisé. L'évêque du lieu, Monseigneur Ayasaka, accueille les missionnaires franciscains avec une certaine bienveillance. Il finit par céder. Au début, il veut pas. Mais il cède pour qu'il publie une revue mariale en japonais. En japonais, imaginez. Ils ne connaissent rien de la langue, hein. Or, pour se faire un petit peu d'argent, il se charge d'enseigner la philosophie au séminaire diocésain, mais il faut dire que l'évêque lui a demandé ça en échange aussi. Et les missionnaires louent une maison auprès de la fameuse cathédrale, n'est-ce pas, qui a explosé, qui a été détruite le 9 août 45 à 11h02, comme je vous avais dit l'autre jour. Le 24 mai commence à Nagasaki l'expédition, déjà un mois seulement après leur arrivée, du Seibo no Kishi, c'est-à-dire le Chevalier l'Immaculé, qui tire à 10 000 exemplaires au début. Puis en 4 ans plus tard, il y a 65 000 exemplaires en plein Japon. En Japon, c'est incroyable, hein? Au Japon. C'est inouï. Il y a une vingtaine d'années, d'ailleurs, au Japon, on comptait 12 couvents, 103 religieux franciscains dans ce pays, grâce à l'action de Maximilien Kolbe, qui était arrivé en 1930 là-bas. Après l'explosion atomique, en 1945, le couvent est demeuré intact. Personne n'a péri. C'est qu'il avait acheté un terrain juste de l'autre côté de la montagne, et la montagne a servi de rempart entre l'explosion et son couvent, où il avait toutes les machines et il étalait tous ses caractères japonais en quantité industrielle. C'était incroyable. Finalement, les revues ici et là atteignent des 320 000 exemplaires quelque part et tout ça. C'est absolument fantastique. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Mais finalement, il est rappelé au Japon. Il participe au chapitre provincial à Cracovie, puis il est nommé gardien du fameux centre qu'il avait fondé. Il remplace son frère qui avait occupé le poste avant lui. Et le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception, à l'initiative du père Maximilien, l'ordre des frères mineurs conventuels se consacre à l'Immaculée Conception. Je vous disais qu'il s'était rendu au Japon. Et dans le livre de Maria Winowska, on peut lire « Nos missionnaires abordèrent à Nagasaki le 24 avril 1930. En entrant dans le port, le bateau côtoya les îles pittoresques où, pendant trois siècles, s'étaient maintenus des vestiges du christianisme. Dans les huttes en bambou, on gardait encore des statuettes de la Sainte Vierge, Seibo. Sous la cendre, la flamme continue à couver. Qui lui donnera son ancien éclat? La tâche des missionnaires franciscains s'annonçait immense. À tout prix et au plus vite, il fallait faire fructifier le sang de tant de martyrs. Est-ce que le père Maximilien Kolbe pensait au jésuite polonais Adalbert Myszynski, contemporain de Saint-André Bobola, qui s'en alla au Japon avec le désir ardent de mourir pour la foi et y obtint la palme du martyr? Aux innombrables martyrs japonais trop mal connus en Europe et en Amérique, torturés, décimés, intrépides, fidèles jusqu'au bout. En regardant ces îles des cerisiers en fleurs, le père Maximilien se rappela tout d'un coup sa belle couronne rouge. Il demanda tout bas, et c'est lui qui le raconte, « Est-ce ici, Notre-Dame, que vous me l'avez préparée ?» Cette fameuse couronne rouge qu'elle lui avait remise, la couronne du martyr quand il était enfant. Et alors, ce n'est pas là qu'il mourra martyr, comme chacun sait. C'est bien au camp d'Auschwitz, en Allemagne. Au Japon, il travaille d'arrache-pied. Il établit cette œuvre absolument admirable qui étonne tous les Japonais. Il arrive qu'il lui faut aller au Japon, c'est-à-dire en Pologne, pour les chapitres provinciaux. Il s'arrête en route à Rome, puis il va à différentes villes. Il donne des conférences sur sa mission japonaise. Et le ministre provincial sortant, quand il est rendu au chapitre provincial, est nommé supérieur du Musenzai no Sono, c'est-à-dire le lieu où il imprime son fameux journal en japonais. Le père Kolbe reste rédacteur. Et en même temps, il s'occupe de la milice de l'Immaculée dans le monde. En août 1933, le nonce apostolique en Pologne baptise le ministre plénipotentiaire japonais François Kawai, qui avait été préparé par le père Maximilien. Et ce dernier, le père Maximilien, retourne au Japon en août, accompagné du père Cornelius Supric, qui a été nommé supérieur. En 1935, en même temps qu'il entreprend la publication en latin de la milice de l'Immaculée, Miles Immaculate, destinée à rallier tout le clergé, de toutes les races, de toutes les langues, eh bien, le père Maximilien lance son petit journal, très bien rédigé, peu coûteux, devient bientôt populaire dans toute la Pologne. Et cette humble feuille va droit au cœur du peuple. Il s'ensuit une espèce de guerre sans merci à toutes les formes d'abus. Alors, il combat la pornographie qui entraîne les femmes à être les esclaves des hommes, finalement.
Il cherche à assainir les mœurs car il veut défendre la femme. Et c'est le quotidien, son petit journal, des petites gens, des paysans, des ouvriers. Chacun lit ça, c'est pas très long à lire, et se sent compris. Il se sent défendu. En peu de temps, le tirage de cette petite feuille, blanche et bleue, aux couleurs de la Vierge, atteint près d'un demi-million d'exemplaires. Le chiffre est énorme pour le pays. À 42 ans, en 36, c'est le retour définitif du père Maximilien Kolbe en Pologne. En juillet, il participe encore à un chapitre provincial à Cracovie. Puis là, il est nommé gardien. C'est là qu'il remplace son frère. En 1937, il sillonne l'Italie. Il va à Rome, à Assise, à Padoue. Pour la Pologne, il rassemble 600 000 membres dans sa milice de l'Immaculée. Il participe aux fêtes du 20e anniversaire de la naissance de ce mouvement marial. Et à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de Denis Pokalanov, là où il avait établi ses innombrables presses, ses innombrables maisons, bien le 8 décembre, il parle à Radio Varsovie, puis là il comprend encore mieux l'importance de la radio. En 1938, il fait une nouvelle émission sur Radio Varsovie, sur le thème de son grand centre, où il y a 700 frères franciscains qui travaillent avec lui. 700, dont des spécialistes dans l'impression et la manipulation des machines à imprimer. C'est une organisation immense, immense. En décembre 38, le père Maximilien Kolbe inaugure par un discours la première transmission de sa propre station de radio. En 38, Maximilien Kolbe semble avoir le pressentiment lors des terribles épreuves qui approchent la guerre, les nazis. Avec la tendresse d'un véritable père, il veut préparer ses jeunes frères qui travaillent avec lui, lui qui est beaucoup plus âgé qu'eux. Il veut les préparer au plus grand sacrifice. Et il y parviendra. En mars 38, il leur dit nettement, « Sachez, mes enfants, qu'un conflit atroce se prépare. Pourtant, la plupart des gens n'y croient pas. » Il ajoute, « Chez nous, en Pologne, il faut s'attendre au pire. » En 39 à 45 ans, il est de nouveau confirmé gardien de Nipokalanov, ce grand centre, par le chapitre provincial de Cracovie. Avec 36 frères, le père Bartosik et le père Maximilien Kolbe sont arrêtés par les troupes allemandes. Le 19 septembre, toujours en 1939, ils sont successivement emprisonnés dans 3 camps de concentration. Et finalement, le 8 décembre, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, ils sont remis en liberté. Mais l'année suivante, en 1940, à la grande surprise du père Kolbe, les autorités allemandes autorisent l'impression d'un numéro, un unique numéro de sa revue. Tirage 120 000 exemplaires, c'est exclusivement pour la zone de Varsovie, mais on lui défend d'en imprimer un deuxième. En 1941, il a 47 ans, le 17 février, le père Maximilien Kolbe, 4 autres prêtres franciscains sont arrêtés par la Gestapo et emprisonnés à Varsovie. C'est une grande voiture noire qui a l'air d'un corbillard qui les transporte. Le 28 mai, dans un train bondé de prisonniers, harassés, épuisés, le père arrive au camp de concentration d'Auschwitz, le fameux camp de concentration. Il se voit attribuer le matricule 16 670. Et en juillet-août, en mesure de représailles, comme on sait, n'est-ce pas, pour l'évasion d'un prisonnier. Il y a une quinzaine de détenus, dont le père Maximilien, qui a voulu, du fond de son cœur, prendre la place d'un père de famille. Eh bien, ces détenus sont enfermés dans un bunker souterrain du fameux bloc 14. Ils sont condamnés à mourir de faim et de soif. Et c'est le 14 août, c'est l'anniversaire aujourd'hui, le père Maximilien Kolbe, qui est le dernier survivant, après avoir assisté, c'est-à-dire ses compagnons, dans leurs agonies épouvantables, il est achevé par une injection d'acide dans le bras gauche. Et le lendemain, son corps est brûlé dans un des fours crématoires du camp. En 1971, le 17 octobre, dans la basilique Saint-Pierre, 30 ans après sa mort, le pape Paul VI l'a proclamé bienheureux. Et c'est 41 ans après sa mort, en 1982, le 10 octobre, que le père Kolbe est canonisé. Saint Maximilien Kolbe est un saint qui a toujours considéré Marie comme l'objet, pour ainsi dire, presque central de son amour, mais pourtant, il dit souvent des choses absolument admirables. Dieu est amour, et comme l'effet doit ressembler à la cause, toute la création vit d'amour. C'est lui qui parle. Je rappelle cette parole qui est très belle, qui fera plaisir aux écologistes, à ceux qui trouvent dans les religions des indigènes des différents pays quelque chose de si beau. Bien, on le retrouve dans la bouche de Maximilien Kolbe. Dieu est amour. Et comme l'effet doit ressembler à la cause, toute la création vit d'amour. Non seulement pour la fin dernière, mais aussi pour les fins intermédiaires. Et dans toute action saine et normale, l'amour est le principal ressort et le premier moteur. On voit qu'il avait fait des études de philosophie et de théologie. Il dit aussi un autre moment, en 1940, dans son dernier article, « Si le bien consiste en l'amour de Dieu et en tout ce qui jaillit de l'amour, le mal, dans son essence, est une négation de l'amour. » Il parle aussi en termes magnifiques de Jésus. Il avait dit un jour, la suprême déréliction de l'agonie fut le couronnement de toute l'œuvre de Jésus. En somme, cette immense souffrance de l'abandon de Jésus, qu'elle soit au jardin dit de l'agonie à Jérusalem, ou après son arrestation, au moment où il est seul à endurer la flagellation, le couronnement d'épines, séparé de tous ceux qu'il aimait, ses apôtres, ses disciples, et plus particulièrement sa mère. Et quand il est sur la croix, même si sa mère est là, le cœur de Jésus est, au moment de l'agonie, subit, comme dit le père Maximilien Kolbe, une suprême déréliction. Je rappelle sa phrase, la suprême déréliction de l'agonie fut le couronnement de toute l'œuvre de Jésus. De toute son âme ardente, dit Maria Winowska, Maximilien Kolbe aspire vers le même triomphe que Jésus. Et Dieu seul sait avec quel pacte et contrat il a engagé sa miséricorde. Les saints sont des paratonnerres. Les saints se jettent en travers de notre souillure. Notre souillure, et les exigences de l'infinie sainteté. Ils sont là pour délier, dit-elle, les mains de l'amour. Mais les mains de l'amour sont déjà déliées. Hein? Les mains du Christ sont toujours déliées pour nous serrer contre son cœur. Il y a de ces expressions parfois dans des livres spirituels qui me gênent, et c'en est une. Je voudrais, tout à l'heure, après avoir écouté un peu de musique, vous lire le récit de François Kajovnicek, celui qui a survécu grâce au père Maximilien Kolbe et qui est mort cette année au mois de mars, comme nous l'a annoncé le magazine Time dans son numéro du 27 mars. Franciszek Kajovnicek, l'appellation polonaise, est mort à 94 ans. Il avait été sergent dans l'armée polonaise au cours de la Deuxième Grande Guerre, de la guerre 39-45, et il avait survécu 5 ans dans le camp de concentration d'Auschwitz, après avoir été épargné grâce à ce moine franciscain, dit le Time Magazine, qui volontairement s'était offert pour mourir à sa place. Il avait été envoyé au camp d'Auschwitz en 1939, Monsieur Kajovnicek. Il avait été condamné à mourir de faim avec plusieurs autres personnes, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, dans le bunker de la faim. Mais il avait supplié l'officier allemand de l'épargner à cause de sa femme et de ses enfants. Et le magazine Time raconte que le révérend Maximilian Kolbe avait offert de prendre sa place. Et quand on voit ça dans des grandes revues mondiales, ce grand sacrifice de ce grand chrétien qui est publié, lui, ce petit franciscain qui publiait une petite revue mariale, on se dit c'est tout de même extraordinaire. Après la mort de son mari, donc au mois de mars dernier, Madame Kajovnicek a dit « Maintenant, mon mari est parti voir le père Kolbe. » Voici donc le texte de François Kajovnicek qui a survécu grâce au père Maximilien Kolbe. Un prisonnier avait réussi à s'enfuir. Comment ? Cela restera toujours un mystère, car la surveillance était de taille à décourager toute tentative d'évasion. La nouvelle nous fit craindre le pire. Nous connaissions tous, en effet, l'habitude des camps. Pour chaque évadé, 10 de ses compagnons devaient mourir de faim dans un souterrain du camp. Je me souviens de ce jour, minute après minute, sans savoir la date exacte, car à Auschwitz, il n'y avait pas de calendrier et nous avions perdu la notion du temps. Je pense que c'était au début d'août. Ce soir-là, l'un des nôtres ne répondit pas à l'appel. L'alarme fut immédiatement donnée et au bloc 14, nous sommes restés au garde-à-vous pendant 3 heures. Ensuite, on nous a laissés tranquilles, mais en guise de punition, nous avons été privés de repas et nos rations furent jetées dans un canal voisin. Mais ce n'était qu'un début. Le lendemain, après l'appel, au lieu de nous envoyer au travail, on nous fit rester debout dans la cour jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil doux tapait très fort. Et beaucoup d'entre nous se sont évanouis, tombant l'un sur l'autre. On nous a donné finalement un peu à manger. Et l'attente a continué toujours debout jusqu'au soir. Le tas de ceux qui tombaient augmentait. Le drame éclata après l'appel du soir. Le colonel Fritsch, commandant du camp, accompagné de l'officier Palitsch, nous mit au garde-à-vous. Je me souviens très bien de ses paroles. Le prisonnier évadé depuis hier n'a pas été retrouvé. 10 d'entre vous vont mourir. Il passa devant nous, nous fixant l'un après l'autre et annonçant de temps en temps un numéro. Quand il s'arrêta devant moi, je compris que mon sort était réglé. Il dit simplement 56-59. J'étais dans la même file que Maximilien. Je fus le dernier ou l'un des derniers à être désigné. C'était l'adieu final. L'un des 10 cria « Au revoir, ami. Nous nous reverrons là où règne la vraie justice. » Un autre trouva la force de dire « Vive la Pologne, je meurs pour mon pays. » Quel patriotisme chez les Polonais. Nous n'avons pas ça ici, à ce point-là. Et le récit continue. « Ma pensée vola vers Hélène, ma femme et mes 2 enfants. Je pleurais. Je pense avoir dit, « Je regrette pour eux, je ne les reverrai plus. » Je ne me souviens plus des paroles exactes. Quelques secondes passèrent. Tout semblait fini quand un numéro, le 16-670, sortit soudain de la file. L'homme avait la tête légèrement inclinée. Les lunettes laissaient deviner un regard vif et pénétrant. Il souriait étrangement. Il se mit devant le chef du camp au garde-à-vous et se découvrit. J'entendis parler en allemand. J'y eus connaissance par la suite, grâce au docteur Wlodarski, qui se trouvait tout près, du contenu de la conversation. « Que veut ce cochon de Polonais ? » demanda le colonel Fritsch, très en colère. Kolbe répondit, « Je suis prêtre catholique plutôt âgé. Je voudrais prendre sa place. » Son doigt était pointé dans ma direction. Lui a une femme et des enfants. Stupéfait, le colonel ne savait que répondre. Ah, c'est un idiot de curé. Et il ajouta simplement, d'accord. Je fus refoulé dans ma file, sans avoir le temps de dire quoi que ce soit à Maximilien, et j'étais sauvé. Si maintenant je peux vous raconter tout cela, c'est à lui que je le dois. La nouvelle se répandit très vite dans tout le camp. C'était la première fois et aussi la dernière que se produisait un cas semblable dans toute l'histoire d'Auschwitz. Parlant de son sauveur, François Gajowniczek conclut « Pendant longtemps, j'ai eu du remords en pensant à Maximilien Kolbe. En acceptant d'être sauvé, j'avais signé sa condamnation, mais maintenant, avec le recul, je me suis rendu compte qu'un homme comme lui n'aurait pas pu agir autrement. D'ailleurs, il l'a fait librement. Peut-être aurait-il pensé que, comme prêtre, sa place était à côté des condamnés pour les aider à garder l'espérance. Or, il les a en effet assistés jusqu'au dernier. François Gajowniczek a vécu avec sa femme Hélène dans leur petite maison de Rzeb, où la photo de Maximilien Kolbe occupait une place d'honneur. Leurs 2 enfants sont morts tout jeunes pendant la guerre. Une nièce cardiaque les a remplacés auprès d'eux. Hélène disait, « Nous ne vivons plus que de souvenirs. » François Gajowniczek a assisté aux cérémonies de béatification et de canonisation du père Kolbe. C'est même lui qui a porté les offrandes du pain et du vin. Le récit de la mort du père Kolbe et de ses compagnons, c'est à un autre prisonnier que nous le devons, Bruno Borgowiec, qui l'avait confié au curé de sa paroisse avant de mourir en 1947. Les 10 condamnés à mort vécurent des jours terribles. De la cellule souterraine où ils étaient enfermés montait continuellement l'écho de prières et de cantiques. Au fil des jours, le nombre des survivants diminuait. Et l'homme chargé de vider les seaux d'urine les trouvait toujours vides, car la soif poussait les prisonniers à en boire le contenu. Le père Kolbe ne demandait jamais rien et ne se plaignait pas. Il encourageait les autres, disant que le fugitif pourrait être retrouvé et alors il serait libéré. Il était toujours à genoux ou assis, appuyé contre le mur. Un des gardes laissa échapper. Ce prêtre est vraiment un grand homme. nous n'en avons jamais eu un comme lui ici. Le 14 août, veille de l'Assomption, quatre prisonniers vivent encore, mais seul le père Colbé peut parler. La cellule doit servir pour d'autres prisonniers. Un Allemand fait à chacun une piqûre et il meurt immédiatement. Le père Colbé est le dernier. Borgo Vietch le verra appuyé au mur, les yeux ouverts, le visage serein, la tête inclinée sur le côté gauche. Le certificat de décès établit comme toujours avec précision l'indique l'heure de la mort, midi et demi. Et c'est ainsi qu'est mort ce grand saint. Cet homme si plein d'amour que quand on lit sa vie, on est bouleversé. J'avais quelques réactions contraires, je trouvais sa dévotion à la Vierge exagérée. J'avais l'impression qu'il en avait presque oublié Jésus et même Dieu, mais non. C'est un très grand saint. C'est un homme qui mérite d'être estimé, prié, vénéré. Et l'Église a bien eu raison, je le dis du fond de mon cœur, de canoniser un si grand homme. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, à la production technique, Isabelle Poirier.